l'atelier avec l'artiste Marcos Carrasquer. Une visite sonore au micro de Julie Chaise-Martin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé, un moment de couleur en suspension, de matière en création. Au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins, la voix des artistes se soulève et fait naître des images.
Je vais tout le jour à l'atelier. Mais en fait, je n'ai jamais eu un atelier très grand. Donc, après, pour moi, pour le moment, ça suffit. Je passe la journée là-bas. Donc, c'est un endroit très important, bien sûr. Oui.
C'est à la galerie Polaris, au milieu de la réserve de tableaux, que je rencontre Marcos Carrasquer, car il déménage de son atelier. À la galerie, il vient de présenter une exposition « Que la fête commence », en référence au film de Bertrand Tavernier. Chez Marcos Carrasquer, la fête ne se passe pas au XVIIIe siècle, mais est bien ancrée dans notre époque. Ces scènes de genre, qui montrent la vie quotidienne, non de l'aristocratie de la Régence, mais des classes sociales les plus populaires de notre société contemporaine, peignent des anti-héros sur un mode grotesque, attachant. De l'humour d'un trait qui grossit l'anecdote, notre sourire spontané face à ces toiles peut se transformer rapidement en rictus désenchanté. Car si le dessin virtuose de l'artiste se délecte des détails, des objets du quotidien, des corps malmenés et même déformés par la société de consommation, il peint une époque de crise au travers d'une critique sociale qui prend le parti du plus pauvre sans l'épargner pour autant. Exagération des formes qui confine à la caricature, liberté absolue du dessin dans une imagination débordante qui ravit le regard, multiplicité des références à la littérature et à l'histoire de l'art, la peinture de l'artiste raconte une comédie humaine sans fard, drôle et tragique en même temps, un carnaval de nos temps modernes où les vices triomphent, mais où l'œil observateur et radical du peintre est aussi rempli d'empathie pour son prochain, au regard d'une histoire des classes sociales qui ne cesse de se répéter.
Parce que quand on voit tes œuvres qui sont chargées, encombrées de personnages, d'objets, qui sont d'ailleurs formellement, finalement, les personnages et les objets nous apparaissent comme sur un premier plan. Il y a peu d'horizon, il y a peu de vide aussi. Est-ce que tu as peur du vide ?
Ben non, je ne pense pas, mais en fait, oui, il y a pas mal de gens qui me disent ça, que, bon, que c'est assez rempli. Bon, je dois le reconnaître que c'est vrai, mais peut-être j'ai un peu de vide, mais disons que je commence un tableau et j'ai pas vraiment, j'ai une idée en tête sur le sujet. Et en fait, tous les éléments du tableau, disons, je le conçois au fur et à mesure que je travaille, donc... Après aussi, j'élimine des choses, j'ajoute, et bon, peut-être j'ajoute plus qu'éliminer, donc, mais bon, après, il y a une composition qui est pensée, c'est aussi la surprise qui me donne plaisir aussi, de ne pas savoir exactement ce que je vais faire et de ne pas savoir depuis le début qu'est-ce qui va passer à la fin, voilà.
Mais c'est toujours des histoires, à chaque fois, un tableau.
Il y a des histoires, oui, parce que... Souvent, je pense à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que va être le prochain tableau, le prochain dessin. Et disons, chaque œuvre, pour moi, c'est un certain univers un peu fermé. Et après, je passe à une autre. Donc, j'aime bien travailler comme ça.
Alors, l'exposition à la Galerie Polaris, en juin, là, s'appelle « Que la fête commence ».
Oui, oui, voilà. Oui.
Alors, peux-tu nous expliquer ce titre?
C'est un peu à partir du film de Tavernier qui avait fait qui s'intitule comme ça et c'est une sur la période pré-révolutionnaire en France, l'aristocratie et tout ça, tout le problème et un peu la décadence d'une société. Bon, je pensais que c'était bien aussi de donner ce titre maintenant par rapport à l'époque dans laquelle on vit après le confinement, donc il y a aussi une espèce de vitalité, disons, que la fête commence, mais il y a aussi une charge sociale, disons, voilà, que ça suffit, certaines choses suffisent, ça suffit, certaines choses qui se passent dans le monde, voilà.
Oui, c'est-à-dire que tu as un regard assez acerbe et critique quand même, plein d'humour aussi sur la vie en général, mais aussi, évidemment, il y a une forte thématique sociale dans tes œuvres.
Voilà, oui.
Et on sent un attachement particulier pour les gens. Pour la culture populaire, pour les petits gens en fait aussi, hein, ceux qui sont un peu oubliés. Et il y a beaucoup d'affection en fait, j'allais dire, dans ce burlesque enfin, que tu peins, dans ce grotesque que tu peins. D'où te vient cet attachement, ce regard tendre et en même temps... Et en même temps tragique sur la vie, sur les gens.
Mais je sais pas, ça, c'est pas quelque chose qui vient de du néant, donc c'est peut-être de ma famille, bon, que c'est quand même de l'exil espagnol contre le franquisme, donc.
Tu peux nous raconter un petit peu ça que.
Mon père il a fait la guerre civile, après il a perdu parce que Franco il a gagné et le. Après, il s'est exilé, il était dans un camp de concentration ici dans le sud de France. Après, il a eu l'invasion allemande et tout ça, donc c'était une époque très difficile. Après, bon, de toute façon, mes parents se sont rencontrés plus tard à Londres. Et moi, j'ai grandi aux Pays-Bas parce qu'il travaillait là-bas. Et en fait, c'est toute ma scolarité, je l'ai passée... aux Pays-Bas. Après, j'ai voyagé, j'ai dû aller en Espagne, aux États-Unis et maintenant en France depuis pas mal d'années.
Voilà. Et alors, la peinture est arrivée quand?
Au tout début, quand j'avais...
Tu peins depuis toujours?
Oui, en fait, bien sûr, au début, c'est plutôt dessin parce que c'est le plus...
Ouais, tu fais toujours beaucoup de dessins, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Mais bon, quand tu es petit, qu'est-ce que tu as dans la main? C'est le stylo, noir sur blanc...
Et alors, est-ce que tu as toujours été aussi doué? Parce qu'il faut le dire quand même.
Moi, je ne suis pas doué. Je ne sais pas. Il y a
un coup de crayon quand même qui est assez impressionnant.
Mais je ne sais pas.
Tu as appris à dessiner ou c'est...
Non, mais disons que quand tu es petite, tu dessines pour toi-même. Et après, à l'école, comme j'avais très peu d'enseignement art plastique, donc c'était presque rien. Mais disons qu'au moment donné, quand tu vas au collège, lycée après, il faut commencer à parler du choix. Et, en fait, à 12 ans, j'avais déjà l'idée de devenir peintre. Donc mes parents étaient bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire quand même l'université, comme ça tu as quelque chose, toujours quelque chose sûr. Mais j'ai dit non, je vais peindre, je vais dessiner, le reste, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, disons qu'il y avait des conflits avec des profs aussi, donc je n'étais souvent pas d'accord avec le point de vue. Donc j'ai fait l'école, le lycée juste pour finir. Et après, j'ai fait Beaux-Arts. Et bon, j'étais content quand même, finalement. Mais bon, c'est aussi, c'est une époque, quand tu es au Beaux-Arts, c'était... Tu attends beaucoup de choses et la réalité est souvent un peu décevante, mais après tu te rends compte que c'est toi-même qui dois construire ton propre univers. Parce que bon, aussi techniquement, au Beaux-Arts, on n'apprend pas grand-chose non plus. Donc c'est juste avec les amis de Beaux-Arts, tu vas faire des expositions, tu vas au musée, tu voyages pour aller ici et là pour voir des autres expos. Et tu parles toute la journée, on parle de... On parle de peinture ou de l'art en général et c'est ça qui est bien d'une formation, de s'imprégner de tout ça, de toute la peinture, toute l'histoire aussi. Voilà.
Et quand tu étais aux Beaux-Arts, tu t'intéressais déjà à l'actualité, société, parce que c'est quand même le sujet central de tes peintures.
C'est vrai qu'il y a toujours l'être humain, ou disons quoi, la figuration. Je ne suis pas vraiment un peintre de paysage ou de... mais aussi de nature morte, un petit peu, parce qu'il y a toujours des objets que j'aime bien peindre aussi. Mais bon, je pense que dans tout le tableau de saint, il y a des personnes. Donc,
Mais tu as commencé tout de suite à être figuratif, très figuratif.
Mais,
comme ça.
Oui, mais comme tous les enfants, non, disons. Je pense qu'après Beaux-Arts, c'est quand même une époque que ça devient de plus en plus abstrait. quand même, donc, jusqu'à finalement arriver à l'abstraction presque géométrique. Donc, c'est un peu difficile à imaginer
oui.
quand vous voyez ce oui. que je fais maintenant. Aussi, avec le recul, je pense que je n'étais pas dans un bon moment. Donc, on parle du Pays-Bas, donc il a une forte tradition d'abstraction, l'histoire récente du XXe siècle. Et je pense que je le sentais ça dans mon entourage aussi. Et c'était comme une certaine pression auquel j'ai cédé. Mais bon, après, moi j'adore certains peintres abstraits, mais je me suis rendu compte que c'était pas moi. Donc voilà, donc de revenir à la figuration, pour moi c'était un peu une libération parce que disons, ben voilà, ça te sert pas que je peignais d'une façon abstraite, c'était pas non plus du temps perdu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Maintenant, quand je regarde un tableau figuratif ou abstrait, pour moi, c'est la même chose, donc il a les mêmes valeurs qui sont importantes, ou de composition, ou la force de l'image. Ou... Personnellement, je pense que j'aime raconter des histoires, des choses qui passent dans ma tête, c'est plus d'une façon figurative que je peux le transmettre, traduire.
Oui, alors il y a beaucoup de références aussi à l'histoire de l'art et puis à la littérature. C'est, par exemple, dans l'exposition actuelle que la fête commence.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler d'une œuvre en particulier où tu as puisé une référence littéraire ou une œuvre où tu t'es amusé peut-être à détourner un peu des... Parce que c'est des sortes de citations aussi parfois finalement de sujets littéraires ou d'histoire de l'art où tu détournes un peu le propos Et tu mets les choses dans une espèce de confusion comme ça. D'ailleurs, le spectateur ne comprend pas forcément tout. Et il faut un peu chercher, il faut un petit peu... Il y a beaucoup de clés, de portes à ouvrir, on va dire.
Non, mais disons que par exemple, il y a un triptyque qui s'appelle Just Paint. Donc c'est un triptyque, il a trois images. Il y a une qui est sur la mort de Malevich. Et l'autre, c'est sur le mouvement, le New York School, donc l'abstract expressionnisme new-yorkais dans les années 50. Et donc, j'ai pris deux éléments historiques. Le cercueil de Malevich qui passait par la porte. Donc, ils ont dû sortir son corps du cercueil pour le descendre dans la cage d'escalier. Donc, j'avais lu ça quelque part et après de ça, j'ai dit bon, il faut que je fasse un dessin ou un tableau sur ça. Donc,
tu aimes l'anecdote, enfin je veux dire...
Non, mais c'est...
Disons que
c'est touchant et comique, tragique en même temps. Peut-être c'est un peu mon univers, les choses qui m'intéressent. Bah, c'est poétique, mais en même temps c'est vraiment complètement absurde ou... désespérant aussi par le fait que Malevich était emprisonné un peu dans son appartement. Et avant, il était torturé, il n'était pas bien soigné avec sa maladie. Donc, et de l'autre côté, il a l'histoire de Jackson Pollock. Et c'est aussi dans un contexte un peu historique du mouvement auquel il appartenait, qui était qu'on a découvert après que le CIA et disons l'intelligence américaine utilisait les artistes comme Jackson Pollock ou Rothko pour un peu imposer la culture américaine dans le monde et pour dire voilà, c'est aussi pour rendre par exemple le réalisme socialiste un peu caduque, un peu ringard. Et donc c'était la modernité, c'était l'Amérique. Donc en fait, le peintre comme Pollock, il savait pas du tout qu'il avait toute cette machine derrière pour promouvoir leur mouvement, puisque ils étaient souvent très à gauche, comme avec des idées politiques. Et bon, donc c'était aussi une histoire qui m'intéresse parce que ça, c'est le rapport entre l'artiste, la société, la position de l'artiste par rapport au pouvoir. Et Malevich, pareil, donc c'est pour ça que j'ai mis les deux extrêmes un peu une à côté de l'autre. Et finalement aussi, pour peut-être s'il y a une conclusion, je ne sais pas s'il y a vraiment une conclusion, mais il y a une pensée personnelle à moi que j'ai dit, bon, il n'y a pas une rôle d'artiste dans la société parce qu'il a toujours, ça va jamais s'arranger. Donc je suis assez pessimiste parce que disons que la politique essaie toujours quand même de contrôler un peu les artistes et les artistes ils se laissent pas faire. Et quand les artistes, quand ils sont sur la même longueur d'onde comme Malevich qui pensait qu'avec la révolution russe quelque chose allait arriver, là ils l'ont quand même enfermé, torturé, Staline il l'a enfermé. Et donc ça ne s'arrange pas, c'est une histoire sans fin, voilà.
Oui, aujourd'hui, l'artiste...
Disons que là, j'étais quelques jours en Espagne, j'ai parlé à Barcelone, j'ai parlé avec des artistes, et ils disaient c'est la résistance, on ne peut pas vivre, il n'y a pas de galeries fermes, il n'y a pas de collectionneurs, c'est compliqué. En France, peut-être ça va un peu mieux, mais aussi... c'est une illusion de penser qu'il existe une société où les artistes sont épanouis ou dans une situation sociale ou financière parfaite ou qu'ils sont d'une certaine façon acceptés par la société. Je ne sais pas, c'est une chose qui passe par la tête, mais je n'ai pas vraiment de solution non plus. Et la société, je pense qu'elle est toujours un peu en retard de toute façon. Surtout la société politique.
Est-ce que tu dirais du coup que d'une certaine manière, tes peintures sont quand même... On a dit qu'elles étaient des peintures sociales, mais est-ce qu'elles sont politiques?
Si, en certaine façon, oui, mais... En fait, je ne pense pas trop à comment définir si c'est social, politique ou humoristique ou je ne sais pas. Comme j'ai dit avant, il a une... Je vais faire une tableau, une image, et la source d'inspiration ou ce que déclenche l'idée, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc quelque chose que je vois dans la rue, une scène d'un film, il y a souvent une réflexion sur l'homme dans la société ou le... Mais c'est politique, c'est pas un art militant. Tu peux faire un tableau de tout et voilà. Donc le choix est plutôt politique ou social ou de l'homme dans la société. Ou voilà.
C'est vrai que quand on regarde tes peintures, on peut penser à Philippe Guston par exemple.
Ah oui, j'adore, oui. Ouais. Oui, j'adore.
Ça, c'est référence que tu aimes,
oui. Ah oui, c'est... C'est je, avec passion, oui. Oui, je l'adore. En plus que, pas pour me comparer, mais il a eu de plusieurs étapes aussi dans sa vie de figuration très sociale au début quand il était jeune, après l'abstraction, et après il est revenu à une figuration très personnelle. Et cette liberté, je trouve ça vraiment incroyable qu'il a eu. Il n'était pas tout de suite accepté non plus, surtout à la fin de la dernière époque, avec un peu style comics, très figuratif.
Et on peut aussi penser, enfin moi j'ai pensé à ça, mais c'est peut-être pas du tout une bonne référence, mais un peu à Fellini.
Fellini, oui. Oui.
C'est vraiment ce côté où on, avec en même temps de l'humour et aussi pas mal de désespoir, le quotidien du peuple en fait, des gens qui sont assez pauvres, qui sont avec leurs défauts.
Oui, avec leurs défauts. Oui.
C'est des anti-héros, enfin c'est voilà l'anti-idéal aussi dans ta peinture. Et puis à partir de quand est-ce que tu as toujours un petit peu grossi comme ça, parce qu'il faut dire que formellement, les gens qui découvrent, qui vont découvrir tes peintures ou tes dessins, c'est très caractéristique, on reconnaît ton style. parce qu'il y a cet effet grossissant et déformant des corps, des objets. Mm. On peut avoir, par exemple, un personnage qui se maintient avec une main, et puis la main va être très, très, beaucoup plus grosse que le corps.
Ouais.
Voilà, c'est... Ça, ouais. Ça, c'est quelque chose que tu fais depuis toujours ou c'est un...
Non, si, mais peut-être, oui, quand, je me souviens, quand j'étais, j'avais 12 ans, 13 ans, il y avait déjà une espèce d'investigation au sujet du corps. Et les mains ou le pied, des extrémités du corps, ça donne toujours une... c'est intéressant comme thème à peindre. Et je ne sais pas comment, à un moment donné, j'arrive à un certain point d'un tableau qui a des aspects très réalistes. Et après, j'ai dit, non, mais ça doit être comme ça. Il faut que la main ne soit pas réaliste, ou soit un peu déformée, ou grossie, ou plus petite. Mais franchement, je ne sais pas expliquer...
Avec la pince à linge qui pince le nez.
Oui,
c'est qui, là, que tu représentes
C'est une employée, en fait.
Avec le casque pour...
Une employée avec l'horloge, le temps qui passe, j'ai quelques pièces de monnaie dans la main. Après, au moment donné, j'ai travaillé comme aussi d'enquête de téléphone. C'est horrible. C'est vraiment le pire boulot que tu peux avoir, c'est faire des enquêtes par téléphone. C'est un peu c'est au sujet de cette époque-là, peut-être que j'ai vécu ça et je dis plus jamais je ferai ça d'embêter les gens par téléphone, parce que vous voulez. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais que ça, j'ai parlé plusieurs langues, donc c'est pour. Mais bon, là, c'est donc plutôt une histoire qui rappelle une époque de ma vie qui n'était pas. Un petit boulot qui était horrible, et donc. Donc peut-être la tête aussi un peu déformée parce que c'était pour illustrer la détresse de cette époque. Quoi, voilà.
Donc ça parle effectivement de la détresse ou des problèmes effectivement de tous ces personnages qui ont soit un boulot qui leur plaît pas, soit sont dans des endroits complètement un peu farfelus, ou bien on voit des familles par exemple dans un camping, alors avec, je sais plus, il y a une peinture, il y a une piscine, je crois une petite piscine gonflable, c'est souvent des objets populaires.
Oui,
tu aimes ça, c'est...
Oui, je sais pas.
Et en même temps, on a l'impression qu'on ne peut pas se sortir de ce statut social, en fait. Qu'il y a, quelque chose qui fait que la vie, c'est très compliqué de... Ça parle de la classe sociale aussi, en fait.
Oui. Il y a bien sûr la lutte des classes aussi. Hein. Donc après, c'est difficile...
C'est quoi? C'est une insurrection qui arrive, qui ne peut pas avoir lieu? C'est ça que tu peins? C'est quoi? C'est...
Non, peut-être il y a quand même un désir de que les choses changent, oui, bien sûr.
Mais tu n'y crois pas.
Je ne sais pas. Je sais que c'est difficile parce que moi, je m'intéresse à l'histoire. Donc, si tu regardes l'histoire, c'est plein de défaites. Le puissant gagne toujours, mais presque toujours. Mm. Il faut quand même essayer d'avoir... une société plus juste. Et après...
Par exemple, si on pense au mouvement des Gilets jaunes, ça t'a interpellé, ce mouvement?
Oui. Parce que... Et là, tu vois aussi la réaction de la classe dominante qui était hyper violente aussi. Parce que là, pour moi, il y a une grande comparaison à faire avec la commune de Paris aussi, donc il y a 150 ans, la répression était féroce. Et maintenant, c'est la même chose est arrivée. Aussi la propagande pour désaccréditer le mouvement des Gilets jaunes, tout ça, c'était assez terrible. Et en fait, je pense qu'en principe, c'était un mouvement vraiment... pour avoir plus de justice, plus de démocratie, que ce ne soit pas toujours le même oligarchie qui décide de tout. Il y a eu toute une campagne pour désaccréditer le mouvement des Gilets jaunes. Et bon, maintenant, c'est difficile parce que disons, le pouvoir est tellement fort, la police tellement nombreux, surtout la propagande, je pense qu'aussi la presse, ou la télé, tout ça, ils sont en général donné une idée très, très injuste de ce qui se passait.
Tu fourmilles d'idées tout le temps.
Mais non. Mais souvent, je pense que j'ai un peu boulimie d'avoir des idées. J'ai toujours peur de rester à sec.
Peur du vide, hein, c'est ce que je disais au début.
Oui, voilà, c'est ça. On revient au début. Non, mais c'est pas possible. Il faut que j'aie des idées. Il faut avoir 5-6 tableaux déjà dans ma tête.
Alors, dans l'exposition, il y a aussi une petite section qui s'appelle zone...
Non, NFT, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Donc, c'est le mur... c'est un blague, ouais, parce qu'on fait avec Bernard, on dit, on va faire un mur, et je dis, on fait l'appel, comme on avait parlé un peu de NFT qu'on voyait un peu partout, non-fungible tokens, j'ai dit, bon, on va faire ça un peu comme une petite blague, comme ça. J'amène des dessins, un dessin, après la même une autre, donc c'est un mur avec des dessins, voilà.
Alors, mais qu'est-ce que tu penses des NFT quand même?
Oui, d'accord. Moi, j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est vraiment une chose qui me... c'est clair que c'est comme un gadget, voilà, on va inventer un truc, on va de vendre des choses qui ne sont pas matérielles. Mais personnellement, j'ai aucun intérêt à le faire ou à participer à ça. Donc voilà, c'est bon. Tu vois qu'est-ce qu'il y a derrière, donc l'idéologie, c'est facile à voir, mais bon, après, j'ai aucun pouvoir là-dessus non plus, donc je peux dire, voilà, je peux avoir donné mon opinion, mais ça ne m'intéresse pas, voilà.
Est-ce que ton regard a changé sur ta peinture depuis quelques années? Est-ce que tu fais toujours des choses un petit peu similaires, ou est-ce que ça a évolué, enfin...
Oui, ça a évolué. Hein, ouais.
Dans quel sens? Est-ce que tu arrives à le percevoir, ça?
Non, je pense qu'il y a quelques années, c'était plus le thème historique de tableau aussi, sur la guerre civile espagnole, pas très palpable, tu ne le voyais pas à première vue, mais ça, c'était un thème important, et aussi, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, le Shoah. Et maintenant, quand même, j'ai plus envie de, toujours avec une perspective historique, mais de parler de notre époque. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des événements, et qu'on vit quand même dans peut-être une basse époque, mais quand même une époque où il se passe énormément de choses. Parce que quand j'étais adolescent, il y avait le bloc, le pacte Varsovie, il y avait l'Occident, et on avait l'impression que ça continuerait pour toujours. Après, il y a 2001, le World Trade Center et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à basculer. Même l'Europe, quand j'étais petit, tout le monde croyait en l'Europe. Et maintenant, il y a la démocratie parlementaire. Et maintenant, il y a aussi une montée des fascismes partout. L'islamisme aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui disent, voilà, c'est pas, le monde a beaucoup changé. Il y a tellement de thèmes à peindre ou à faire des liens entre une et autre chose que... Un tableau, ce n'est pas juste l'idée, c'est juste comment l'iconographie, de quel angle tu vas aborder un sujet. Il faut le faire quand même faire intelligemment. Et même l'humour, là, tout dans l'histoire, il y a quand même une réflexion conceptuelle qui est quand même très importante, parce que tu ne peux pas aborder tout le sujet avec juste légèreté, ou voilà, si tu abordes des sujets assez tragiques, ou surtout avec l'humour, il faut faire attention que ça soit pas, que tu te moques pas de ça. Disons que je pense que je me moque jamais de personne, mais même aussi avec le confinement, quand j'ai vu mon exposition, tout le tableau ensemble, j'ai vu qu'il y a quand même deux ou trois tableaux, ou peut-être plus, que indirectement, il y a des thèmes du confinement qui sont présents. Mm-hmm. Mais je n'ai pas pensé comme ça ou conçu, voilà, je vais faire une expo sur le confinement. C'est normal que tout ce qui nous a préoccupé ces derniers mois, que d'une certaine façon, ça se reflète dans le tableau aussi.
Et alors, pour terminer cette interview, est-ce que justement, est-ce que tu veux qu'on aille devant un de tes tableaux et que tu nous en dises un petit mot, par exemple?
Bon, d'accord.
Ça
okay.
marche,
oui, ça part. Parfait.
Tu les aimes tous, hein, c'est normal. Oui.
Donc ça, ce tableau, il s'appelle « La vie sur Terre ». Et bon, ce n'est pas directement en lien avec le confinement, mais c'est une femme qui est allongée dans son appartement et avec sa tête plaquée contre la vitre d'un aquarium. Tu vois encore écrit sur l'écran « Ma banque ». Donc son banquier vient de la paix. Donc, c'est direct, c'est indirectement, on voit qu'est-ce qui se passe sur la dette, l'avoir de dette. Après, il a une espèce de solitude qu'on sent en détresse. Je voulais faire quelqu'un qui veut retourner à l'eau, donc comme on vient de poisson. Et donc le fait d'être dans l'eau, comme on peut sans sentir son poids, un peu flottant comme ça. Et que la réalité sur Terre, donc la vie sur Terre, le titre du tableau, il est tellement dur et compliqué que voilà. Donc c'était un tableau important parce qu'il a une certaine poésie, il a un désespoir, il a de l'humour aussi. Donc voilà. Donc, voilà,
il a un petit peu tous les ingrédients que.
Oui, oui. Et donc je suis assez fier de ce tableau. Mm-hmm. Ouais. Voilà.
Bah, merci voilà. beaucoup, Marcos.
Bah, de rien, je dis. Merci.
Trois œuvres de Marcos Carrasquer seront présentées à la Galerie Polaris du 1er au 29 juillet dans l'exposition collective Le Chant du Monde. Tous les épisodes du podcast À l'Atelier sont disponibles sur le site internet d'Art District Radio dans la rubrique Art Interview. Et je vous retrouve prochainement pour un épisode 6.